cachait certaines perles de ce tabernacle qui devrait apparaître. On peut le faire un peu plus grand. Voilà, c'est pas très net, mais bon, voilà. En tout cas, la dernière fois, pour ceux, je ne vais pas m'attarder à ce qu'on avait dit la dernière fois, mais juste rappeler une chose, c'est que tout ça a été conduit par un souverain sacrificateur, un petit peu le grand chef du tabernacle. Je ne reviens pas en détail sur ce qu'il était, mais juste rappeler qu'il portait sur ses épaules et sur son cœur des perles avec les noms des tribus d'Israël qui nous rappelaient combien nous-mêmes nous pouvons être sur le cœur de Jésus et porter sur ses épaules. C'est déjà merveilleux tout ça. Mais c'était l'autre fois, donc on ne va pas y revenir. Mais là, on va prendre autre chose ce matin. On va étudier cette... Voilà. Ah ben merci, tu peux montrer. Cette cuve, la cuve d'airain, qui était donc située à l'entrée du tabernacle, avant le lieu saint et le lieu très saint, après l'autel des sacrifices. Cette cuve que vous voyez là, légèrement bleue, bon, ce n'est pas très net, mais je pense que vous voyez en tout cas où elle était, c'était pour l'idée. On peut laisser l'image, comme ça vous pouvez vous mettre un peu dans l'ambiance, dans ce qui pouvait se vivre là. Et on va parler plus particulièrement de cette cuve d'airain. Je rappelle juste un autre aspect. La dernière fois en introduction, j'avais surtout expliqué que c'était un modèle. Les mesures et tout ça avaient été données à Moïse par Dieu, en même temps que la loi et les 10 commandements. Il n'y a pas que ça qui est tombé du ciel, il y a tout le modèle, l'architecture du tabernacle. Et c'est pour ça que je parlais de spécialiste en tabernacologie. Je vous encourage à creuser aussi chez vous, à lire d'ailleurs là-dessus. Ça vaut la peine, toute la symbolique qu'il y a là autour, sur les couleurs, sur les dimensions, etc. Mais je ne reviens pas là-dessus. Mais simplement pour dire qu'il y avait une autre dimension que juste la dimension symbolique ou de ce que Dieu voulait, c'est le catéchisme que c'était, parce que c'était la première fois que Dieu, le Dieu vivant, au milieu de toutes les religions et des essais humains de faire monter un culte à Dieu, disait comment lui voulait un culte, qu'on lui rende un culte. Et ça, c'est hyper intéressant pour nous encore aujourd'hui, même s'il y a des choses qui sont révolues ou qui sont passées, je dirais qu'elles ne sont pas révolues, elles ne sont pas passées, elles sont accomplies en Jésus, mais le symbole reste, non pas seulement sur les couleurs, sur les dimensions, mais sur le fait même que ça va nous dire un catéchisme sur comment Dieu veut qu'on l'adore. Et ça, c'est hyper intéressant. Donc, il y a les symboles, les dimensions, ce qu'on peut y trouver, mais il y a aussi l'essence du culte. Donc, quand on, ce matin, on veut rendre un culte à Dieu, on a été conduit dans l'adoration, eh bien, on va revenir au tabernacle pour comprendre par les instruments, les ustensiles, qu'est-ce qui plaît à Dieu. Une clôture, donc tout autour, 2,50 m de haut, un parvis de 50 mètres sur 25 mètres, l'autel des sacrifices, la cuve d'airain, le lieu saint et le lieu très saint. Lieu saint, lieu très saint, deux tiers, un tiers. Deux tiers pour le lieu saint, où on pouvait venir là officier, ceux qui étaient autorisés à y venir, et puis le lieu très saint, où venait seulement le souverain sacrificateur, le grand chef, une fois par année, et encore avec toute une préparation pour ne pas être anéanti, hein. Vraiment, il fallait s'y préparer. Donc, on va ce matin comprendre avec ce point précis de la cuve d'airain quelque chose de bien particulier. Quand vous voyez l'enceinte, si je vous demande quelle pourrait être dans l'adoration de Dieu, vous savez que Dieu est trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit, qu'est-ce qui pourrait, c'est assez facile hein, comme question, en regardant l'image, qu'est-ce qui pourrait symboliser le Père, le Fils et le Saint-Esprit ? Regardez cet ensemble avec ces trois choses. Il y a trois choses particulières. Et
la fumée qui se dégage du... C'est pas barbecue.
Non, je pense que c'était symboliser la nuée qui les accompagnait.
C'est pas ça.
Non, je pense que c'était le feu la nuit et puis la nuée le jour. Mais je parle des trois. Donc, on entre. Il y a l'autel des sacrifices, là, qui brûle. Hein, vous voyez, la première fumée, pas la grande, la première. L'autel, voilà exactement, merci, Esther qui suit bien, l'autel des sacrifices, la cuve d'airain dont on va voir ce matin, et la tente. Qu'est-ce qui pourrait être le Père, qu'est-ce qui pourrait être le Fils, qu'est-ce qui pourrait être ça, c'est assez facile. Voilà, le lieu de la rencontre, c'est vraiment Dieu le Père, lieu très saint, etc. Les sacrifices, Jésus-Christ, c'est évident. Donc ce matin, on va parler du Saint-Esprit, voilà. Et c'est vraiment bien à comprendre, c'est assez simple au fond ça. Il y a la présence de Dieu, Père, dans l'intimité du cœur sous la tente. Il y a vraiment l'autel des sacrifices pour entrer par Jésus, pour que nos péchés soient pardonnés. C'est vraiment là, il n'y a pas... Vous savez, il y a des choses qui vont très, très loin dans la symbolique, des mesures, des choses compliquées, des couleurs. On peut aller très, très loin. Il faut se gaffer aussi. On vient presque dans la cabale juive après. Donc, voilà, il faut être mesuré. Mais là, il y a des choses simples, qui sont évidentes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et donc, Dieu va nous enseigner ce matin comment il veut qu'on le rencontre dans l'adoration avec le ministère du Saint-Esprit dans cette cuve d'airain. On va lire Exode 30. Vous allez ouvrir vos Bibles. Je vous encourage à venir avec vos Bibles. Au culte, si vous voulez suivre bien les prédications, vous en retirez un meilleur profit en ayant vos Bibles que je vous encourage à souligner, à travailler. Voilà. Alors, Exode 30, 17 à 21. Exode, vous pouvez le lire bien sûr chez vous. Si vous n'avez pas votre Bible, vous pouvez reprendre ces choses chez vous. Exode 30, à partir du verset 17. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain. » D'airain, c'est le bronze. Hein. Si vous suivez à faire conclure, pour les fans, ou si vous aimez bien les brocantes et autres, airain, c'est ce qu'on appelle le bronze. Hein. Toutes les statues en bronze, tous les petits sculpteurs qui font des choses, le bronze, l'airain, c'est pratiquement la même chose, c'est des alliages d'étain, de cuivre et de fer, d'acier. Enfin voilà, vous pouvez regarder ça sur le dictionnaire, mais c'est juste pour dire que c'est du bronze. Hein. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel. Tu y mettras de l'eau avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, donc la tente, hein, le chapiteau, le tabernacle central, ils se laveront avec cette eau afin qu'ils ne meurent point. Et aussi lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir les sacrifices à l'Éternel. Ils se laveront les mains et les pieds afin qu'ils ne meurent point. Ce sera une loi perpétuelle pour Aaron, pour ses fils et pour tous ses descendants. Donc, c'est tout simple, hein, vous voyez, c'est pas compliqué. Quand ils vont dans un sens pour officier vers le Père dans l'intimité, il faut se laver les mains et les pieds. Quand ils reviennent en arrière, quand ils vont plutôt vers l'extérieur pour faire les sacrifices, laver les mains et les pieds. Donc, elle est vraiment centrale entre la présence de Dieu le Père, entre Jésus-Christ, et à chaque fois, dans un sens comme dans l'autre, on se lave les pieds et les mains, et c'est sérieux afin que tu ne meures pas. Donc, c'est vital. Qu'est-ce que pourrait signifier pour nous aujourd'hui, avant d'aller avec Jésus pour nous purifier, nous recevoir à nouveau le sacrifice, l'assurance du pardon, tout ce qu'on peut vivre à cet autel du pardon avec Jésus, avant d'aller vers le Père, l'intimité, tout ce qu'on peut vivre dans cette adoration, de sans cesse, de peur de mourir, de passer par cette ablution de nos mains, de nos pieds, avec le ministère du Saint-Esprit. C'est ce que je me propose de réfléchir, travailler un petit peu avec vous ce matin, et vous verrez qu'il y a plusieurs indications intéressantes. Je ne reviens pas, mais quand même un tout petit peu, sur les sacrifices. Bien sûr, quand on entre, on ne va pas directement en courant dans le lieu très saint, parce que caput, même pas dans le lieu saint, même pas à la cuve d'abord, il y a, quand les Israélites ou quand les Lévites officiaient, développaient le culte, ce passage à l'entrée, dès qu'il passait par ce grand portail d'entrée, d'abord le sacrifice du Christ. Je ne peux pas m'élever par la méditation transcendantale, par le yoga, par tout un tas de trucs pour aller comme ça, du camp ou du parvis vers la présence de Dieu. Comme plein de gens essayent de le faire et d'y arriver, et puis ressortent en disant « ça ne marche pas » ou « j'ai pas pu » ou « alors si, ça a été super, j'ai vécu de ces choses extraordinaires » parce que vous savez, sans Christ, on peut vivre des choses extraordinaires, miraculeuses, fantasmagoriques, extraordinaires. Et la preuve, c'est tous les gens qui vous disent « mais ça marche !» Oui, ça marche. On peut vivre plein de choses. Mais l'ordre de Dieu, le projet de Dieu pour l'être humain, pour sa créature, c'est de passer d'abord à l'entrée par l'autel des sacrifices. C'est Jésus qui vient à notre rencontre. Ce n'est pas moi qui vais dans sa présence. C'est Jésus qui nous dit, je suis mort pour toi. J'ai ouvert la route vers le Père. L'agneau parfait a été immolé. Et là, on doit, ce n'est pas juste pour la conversion. C'est sans cesse. Ce n'était pas une fois qu'il fallait que les Lévites ou le peuple viennent au sacrifice. C'était tout le temps des sacrifices. C'était tout le temps et toutes sortes de sacrifices. Hein. Il y avait des sacrifices de reconnaissance, des sacrifices d'holocauste pour le péché, il y avait des sacrifices entiers, et voilà, je ne reviens pas là-dessus, ça serait une étude en soi. Mais c'était sans cesse dans ce culte d'adoration. Vous savez, nous les évangéliques, on a un petit peu conversion immédiate, juridique, définitive, t'es sauvé ou pas, t'es né de nouveau ou pas, puis c'est terminé. Les catholiques vont vers une conversion permanente, c'est autre chose, les deux choses sont vraies, d'accord, il ne faut pas confondre. Ce qui est, qu'on ne se comprend pas souvent entre catholiques et évangéliques, c'est qu'on ne met pas le mot conversion pour la même chose. Mais cette notion de conversion permanente, de changer nos cœurs, de revenir en face de Jésus pour que je prenne conscience de ces choses est importante et était dans le culte. Ça aurait pu être une fois pour tous les nouveaux, comme le baptême. Il fallait une fois passer au sacrifice. Bon, ben c'est bon, tu as Jésus dans ton cœur, il a payé pour toi, c'est bon. Non, non, ça faisait partir du culte, revenir à l'agneau de Dieu. Donc, je ne reviens pas, mais je voulais le mentionner, c'est ça la première étape. Est-ce qu'on est sûr, quand on vient à la présence de Dieu, qu'on a cette conscience du péché pardonné? Parce qu'autrement, si je vais sans repasser en disant « mais ce sacrifice de Christ, je l'ai fait une fois pour toutes, là c'est bon, je suis sauvé, hein, je suis venu à la croix », eh bien, je vais aller dans la relation d'aide à la cuve des reins, qu'on verra tout à l'heure, ou dans la présence de Dieu, avec des problèmes non réglés. Et je voudrais les régler dans ce temps d'adoration, je voudrais les régler dans la relation d'aide, je voudrais les régler avec chose, machin, chose comprise, ou j'en voudrais à mon frère, ma soeur, au pasteur, à tout le monde entier, etc. Simplement, parce qu'il ne faut pas oublier que d'abord, il y a ce passage permanent, constant, même si c'est une fois pour toutes pour la conversion qu'on est sauvé, oui, d'accord, etc., que même si vous n'avez pas confessé tous vos péchés, c'est la grâce de Christ, vous êtes sauvé pour toujours, etc., je ne remets pas ça en question. Mais dans le culte, tout ça, savoir qu'il ne faut pas que j'essaye de régler certaines choses à la cuve des reins, on verra son but, mais c'est la relation d'aide en gros, ou dans la présence de Dieu, mais revenir simplement au sacrifice du Christ pour une assurance totale qu'il a payé, qu'il a tout fait, que c'est réglé, et que ce n'est pas avec plus de relations d'aide, avec plus de je ne sais pas quoi, hein, plus de prières, plus de lecture de la Bible, plus aller au culte, etc., que ça va régler ça. Cette assurance, c'est venir simplement à la croix du sacrifice, à l'entrée, y revenir autant de fois que j'en ai besoin, mais ce n'est pas la relation d'aide, ce n'est pas l'intimité du Père, c'est vraiment que Jésus a tout payé. Cette assurance libératrice que le Christ a tout fait, qui doit être acquise, et vraiment, c'est cet endroit-là, et ce n'est pas à confondre à moitié avec la présence de Dieu ou avec la cuve des reins. Donc la foi chrétienne diffère vraiment de toutes les autres religions sur ce point-là, c'est que ce n'est pas une élévation de l'homme vers Dieu, mais c'est Christ qui vient et qui fait ce qu'il y a à faire. Et ça, c'est vraiment fondamental à comprendre. Si quelqu'un ce matin n'est pas au clair avec ça, dites-vous, super, il a tout fait. Comme je suis, qu'est-ce quelques difficultés, quelques problèmes que j'ai eu d'enfants désirés, non désirés, que j'ai péché, repêché, que j'ai vécu des choses terribles, même si vous avez tué, violé, tout ça, on vient au sacrifice de Christ. C'est pas la mort à soi-même, qu'on verra après, n'a rien à voir avec ça. Je ne dois pas mourir à moi-même pour payer mes péchés ou je ne sais pas quoi. Donc, que ça soit vraiment bien clair et acquis. Ça, c'est vraiment la foi chrétienne, qui est unique par rapport à toutes les autres religions. Alors, cette signification symbolique, nous y arrivons quand même, après cette longue introduction, sur cette cuve. Cette cuve va nous communiquer quelque chose, comme je l'ai dit, du ministère propre du Saint-Esprit dans nos vies. Elle est remplie d'eau, elle est là, vous imaginez, une grande cuve comme ça, des reins, donc les reins ça brille, hein, il y a des reflets de cuivre, vous avez cette eau magnifique là, qui est là, et vous arrivez au bord. Et contrairement à tout ce qui est dit sur les sacrifices, vous en avez des pages et des pages et des pages et des pages, comment faire les sacrifices, quelle épice il faut mettre, quelle odeur il faut mettre, etc. Les dimensions exactes de l'autel des reins, là où il y a les sacrifices, etc. Contrairement à tout ce qui est dit sur le tabernacle, des pages et des pages et des pages sur le saint, lieu très saint, comment y entrer, etc., etc., etc. Hein, des pages sur les couleurs, sur les détails de tout, du portail, de comment ces piliers qui font le bord de la tenture doivent être faits, de l'intérieur, de tout. À l'intérieur, les couleurs, les différentes étoffes, ce qu'il y a dedans sur la table des pains de proposition, les bougeoirs, c'est rempli de tout ça. Et un objet là au milieu, qui est autant important que les autres, qui représente le ministère du Saint-Esprit, rien, si ce n'est régulièrement, quand tu vas dans un sens, quand tu vas dans un autre, lave-toi les pieds et les mains, autrement tu meurs. Rien. C'est le seul, écoutez bien, là il y a une richesse, il y a une perte, c'est le seul instrument, élément de tout cet ensemble qui n'a aucune dimension. Très intéressant. Si des choses étaient décrites, des choses n'étaient pas écrites, bon, ils ont dit, on laisse libre ce qui n'est pas important, vous le faites comme vous voulez, et puis le reste, vous le faites, non, tout est décrit. Chaque millimètre, chaque couleur, chaque tout de tout le tabernacle, de l'extérieur à l'intérieur, tout, sauf la cuve d'air. Ministère du Saint-Esprit, sans limite pour nous. Ça nous dit déjà des grandes choses sur toutes ces discussions sur Toronto, si on a le droit de lire ou pas, de tomber ou de rire ou pas, de faire ci, de faire ça, s'il faut parler langue avant ou après ou tout le temps, etc. etc. Tous ces dons de l'esprit, de ça, tout ce qu'on veut réglementer, c'est ce qui remplit les pages de notre Église. On n'a pas beaucoup de pages sur si la dimension de la porte d'entrée doit être large ou étroite. Mais la Bible, dans le modèle que Dieu veut dans notre adoration, c'est ça qui inquiétait. Tout ça, les couleurs, les tentures, les machins comme ça. Et puis le lieu de la présence, de se laver. Pas d'être sauvé, pas sur la croix. Il y a plein de choses, la théologie de Jésus-Christ. La théologie de Saint-Esprit, une cuve dont on dit ni la couleur, ni les dimensions, ni les formes. Juste qu'elle va être ronde, c'est tout. On ne dit pas pour les pieds, on dit pas. Alors, c'est vraiment ça choque quand vous lisez toutes ces pages de description. Pourquoi il n'y a aucune? Eh bien, aucune dimension, aucune limitation à ce qu'on va recevoir du Saint-Esprit. Vous pouvez y aller à fond. Jésus-Christ, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez à la croix. C'est une théologie très claire, très simple. Il l'a fait, la pleine humanité, la pleine divinité de Jésus-Christ, la croix, qu'est-ce que c'est que le pardon des péchés? C'est très, très, très clair. La présence de Dieu, le fait d'avoir de l'intimité de son cœur, le fait qu'il y a des ministères différents qui ne peuvent pas faire pas n'importe quoi, etc., etc. Tout ça, c'est bien. Alors, on va voir une indication. Il y a une seule, un verset dans la Bible. Peut-être que vous en avez trouvé d'autres, peut-être que vous allez me piéger, mais j'ai comme lu quelques commentaires là-dessus, je ne l'ai pas trouvé. Mais peut-être qu'il y en a un, je dis pas, j'affirme pas ça, mais pour le moment, j'ai trouvé un seul verset ailleurs dans la Bible qui donne une indication, une seule indication sur la cuve des reins. C'est quelques pages plus loin, dans Exode 38, où il nous est dit cette petite perle, mesdames, écoutez bien, mesdames, extraordinaire. Exode 38, 8, c'est facile à se rappeler. Hein. Exode 38, 8. Il fit, on ne sait pas pourquoi, c'est au milieu d'un tout autre chapitre, hein, sur l'autel, justement sur l'autel des holocaustes, pour définir, pour le parvis, vous avez les descriptions de l'autel des parfums, de la table des pains, des chandeliers d'or sur les toutes les pages d'avant, toutes les pages d'après, le parvis, toutes les descriptions, et au milieu de tout ça, alors qu'on ne parle pas de la cuve des reins, un truc, il fit la cuve des reins avec sa base des reins en employant les miroirs des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Mesdames, il a pris vos miroirs, il a piqué vos miroirs, bon, imaginez ce qu'on peut représenter, il n'est pas décrit, mais je ne vais pas trop me risquer là-dessus, mais il a piqué mon miroir pour en faire le lieu de la rencontre avec le Saint-Esprit. Alors, c'est aussi pour les messieurs, hein, au cas où. Mais c'est beau que ça soit le miroir des femmes, hein, parce qu'on sait que les femmes ont des miroirs, on sait qu'elles se regardent. Les hommes, on ne sait pas s'ils en ont, on ne sait pas qu'ils se regardent, mais je pense qu'il y a autant de problèmes sur le moi et sur le reflet de la personne et de quelle image on se donne, hein. Qu'est-ce que ça pourrait dire, cette cuve des reins? D'abord, qu'elle soit au centre, entre le sacrifice de la croix et l'adoration à la présence du Père, elle est au centre. Aucune dimension, tout a des dimensions. Et qu'on donne quelque chose, qu'il a été prendre, quelque chose. Tous les autres avaient des reins, il avait plein de reins, il avait plein de choses, etc. Il a demandé des dons, il y en avait plus qu'il en fallait en abondance, etc. Et là, il a été prendre les miroirs des femmes, donc dans lesquels elles se regardaient. Il dit, vous allez donner ça, et on va en faire un beau cadeau, en faire la cuve des reins, le lieu de rencontre avec le Saint-Esprit. Mais quelle symbolique extraordinaire! Le lieu du Saint-Esprit, où je pourrais vivre sans limite des choses, qui ne sont ni mon salut, ni l'adoration du Père, mais qui sont ma vie de tous les jours avec le Saint-Esprit qui va m'aider, aucune limite, si ce n'est de donner mon image, de donner mon ego. Jésus nous demande notre vie contre sa vie. Hein, tu me donnes ta vie, je te donne la mienne. Toi, tu me donnes tes péchés, tu me donnes tes problèmes, tu donnes ce qu'il y a, moi, je te donne la vie et le salut. Le Père, il nous accueille comme un Père, il nous prend dans ses bras, hein, il nous dorlote, il est saint, il est parfait, voilà, on ne peut même pas le décrire, mais il y a un truc. Et là, au milieu de notre vie de tous les jours, nos problèmes, nos difficultés, nos jours avec, nos jours sans, nos lundis matins, nos difficultés, ce Saint-Esprit, qui est la présence de Jésus, vous savez ce qu'il dit, je vous enverrai un consolateur. Ailleurs, il est dit un autre moi-même. Vous vous rendez compte? Je vous enverrai un autre moi-même. Jésus est avec nous. On dit souvent Jésus est avec nous, etc. Il dit, est-ce qu'il faut prier Jésus? Non, on prie le Père par Jésus. C'est la bonne théologie. Et le Père, Jésus est venu faire son boulot, il est reparti au ciel et il nous a envoyé un autre lui-même. Il nous a envoyé un consolateur, il nous a envoyé sa présence, un Saint-Esprit. Ce n'est pas Dieu notre pote, pas Dieu le Père. Ce n'est pas Jésus qui est là, il a fait son boulot. C'est le Saint-Esprit qui est un autre Jésus, qui est un autre moi-même, c'est Jésus présent avec nous, c'est le Saint-Esprit. Il est là pour tous les jours. C'est lui notre pote, c'est lui qui travaille avec nous, c'est lui qui va nous consoler, c'est lui qui va nous conduire, c'est lui qui va nous laver, nous purifier. Et la seule chose que lui demande, ce n'est pas notre vie comme Jésus, mais c'est notre image. Le Saint-Esprit désire, pour cheminer avec nous, qu'on lui soit d'accord. Personne n'a été forcé, hein. Elles ont donné, il leur a demandé, il a sollicité, elles étaient libres de le garder ou de le donner. Il ne les a pas volés, j'ai dit piqué, c'est un faux mot, il a reçu, il a demandé, il a interpellé. Et Jésus, par le Saint-Esprit, cet autre moi-même, vient avec nous dans nos vies et te dit, le travail de ta vie entre ton salut et ton éternité, ta vie maintenant, si tu veux qu'on travaille ensemble, il n'y a pas de limite. Juste sois bien préparé que tes péchés sont pardonnés, autrement ça va te troubler. Donc sois sûr de ça, ton salut. Ça. Mais il n'y a pas de limite. Mais ce que je te propose, qu'on va travailler ensemble, la seule chose que je te demande, tu vas me donner ton image. Tu vas me donner l'image que tu te fais de toi-même. Tu vas me donner l'image que les autres te plaquent dessus. Ah, ça c'est intéressant pour la relation. Hein. Ça c'est intéressant pour vivre notre vie. Toutes ces images qu'on voit nous-mêmes dans notre propre miroir, qui sont la dure réalité. Le petit bouton, le petit poil, le petit truc, là, ça, c'est la dure réalité. Ça, c'est... Et puis, la même chose, ce miroir, c'est aussi tous les autres qui nous montrent un miroir par leur réaction, comment ils nous trouvent, comment sont les petites allusions, c'est... toutes ces difficultés dans nos relations, dans le rejet, dans ce qu'on sent, qu'on a... Tous ces miroirs-là, Saint-Esprit propose qu'on lui les donne, qu'ils soient fondus. Et mes amis, ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette subtilité qui n'est pas écrite dans la Bible mais qu'on peut voir clairement, c'est quand un lévite s'approchait au bord de la cuve, quand il officiait, plongeait ses mains dedans pour se laver. Et qu'est-ce qu'il voyait? Son visage. Un nouveau miroir. Vous voyez, il n'y a rien dit, très peu sur la Bible. Mais c'est pour laisser le Saint-Esprit travailler nos cœurs, nous laisser aller. Qu'on s'approche de cette cuve, qu'on plonge nos mains, on a donné notre miroir, il est fondu. Et on va recevoir une nouvelle image, c'est bien nous. Mais au travers de la cuve des reins, quand on a donné notre miroir, quand on a donné tous les miroirs que les autres nous renvoient, qui sont fondus, qui ont disparu, je peux recevoir ce nouveau cadeau. Je plonge mes mains dans une eau fraîche, je lave mes pieds et je reçois une nouvelle image. Nouvelle personnalité. Voilà ce que le Seigneur veut travailler avec nous. Est-ce que tu es prêt ce matin à donner, à lâcher ton miroir pour qu'il soit fondu? Ainsi, ce n'est plus ce que je dis de moi qui compte. Et ça, c'est vite écrit. Hein. Encore quelque chose qui est vite écrit. Ce n'est donc ainsi plus que les autres pensent de moi ou l'image qu'ils me renvoient que je veux prendre, que je veux, à qui je veux accorder de l'autorité, de l'importance. Parce que cela, c'est à donner pour être fondu. Mais je veux recevoir cette image, cette identité, cette personnalité nouvelle que le Saint-Esprit veut me donner. Si je peux vivre donc un pardon total à la cuve, à l'autel des sacrifices en arrivant, et qu'ensuite je reçois une nouvelle image de moi-même, quelle vie épanoui en abondance, je peux vivre. Mais je le rappelle, c'est encore et encore, hein, ce n'est pas une fois pour toutes. Hein. Il peut venir, il le dit bien, il le précise, c'est la seule consigne qui dit, avant d'aller vers la présence du Père, tu passes là, autrement tu meurs. Ça veut dire quoi? Autrement tu te plantes. C'est ça que ça veut dire, il ne va pas nous tuer aujourd'hui, Dieu. Mais tu plantes, tu meurs, tu passes à côté de la vie, tu es à côté. Si tu vas adorer Dieu et que tu n'as pas sur ton pardon de tes péchés et que tu ne sais pas que ton miroir il a fondu, il a disparu, ton image de toi-même, ton image que les autres envoient. C'est une nouvelle image que je veux avec toi. Mais encore et encore, puis quand tu retournes vers Jésus un petit peu, t'as besoin, aussi dans ce sens-là, tu te replonges les mains. Toujours, chaque fois, toujours, tu te replonges les mains et tu vois sans cesse, contre l'image des autres, contre ta propre image, tu vois l'image que Dieu, que le Saint-Esprit veut te donner de vivre. On va lire un texte dans Jacques 1 qui nous dit quelque chose de cela. Jacques 1, je vous invite à lire les versets 21 à 25. Jacques chapitre 1, verset 21. C'est pourquoi, en essayant de lire ce verset, bien sûr, hein. Vous imaginez, vous vous promenez par là, vous avez l'image, vous êtes assuré du pardon des péchés, vous voulez aller un petit peu dans l'intimité du cœur de père, mais vous avez vos problèmes, vous avez le chômage, la dépression, un enfant qui va mal, etc., c'est dur, on se promène. Eh bien, on passe par cette cuve des reins. C'est pourquoi, rejetant toute souillure, toutes ces fausses images, on les a données, elles ont fondu. Tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur. Là, vous plongez les mains dans l'eau fraîche. Voyez votre visage comme ça brillant dans cette cuve d'airain d'eau bleue, parce que ça brille avec le cuivre s'il y a un reflet du soleil. Recevez avec douceur cette parole qui a été plantée en vous, qui peut sauver vos âmes. Vous imaginez ? Cette parole nouvelle, cette image nouvelle, qu'est-ce que Dieu dit de nous ? C'est parce que les hommes, le conjoint, les enfants, les parents, l'employeur, c'est plus même ce que vous dites de vous-même, c'est plus ça. Ça, c'est les souillures, ça, c'est les méchancetés, ça, c'est la dureté humaine, ça a fondu. Recevez, en plongeant vos mains dans cette cuve, cette douce parole de Dieu qui dit « Tu es mon enfant, tu es ma fille bien-aimée ». Elle est plantée en vous, elle peut sauver vos âmes, pas elle va sauver vos âmes. On ne parle plus du salut éternel, hein. On parle de ce moment, de nos vies de tous les jours avec le Saint-Esprit. Cette parole est plantée en vous, elle peut sauver vos âmes. Que vas-tu faire, Eric, Réjeanne, Ngarade, etc. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux, ça peut sauver ton âme. Tu es là, des mains plongées. Tu sais que Jésus t'a pardonné, tu vas aller vers le cœur du Père, tu marches tous les jours le lundi, tu as peut-être les mains dans le cambouis, tu as peut-être les mains dans la farine, mais tu es là spirituellement, tu plonges tes mains, et c'est une parole de grâce qui peut sauver ton âme. Mettez donc en pratique cette parole. Ne vous bornez pas, l'écoutez. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements, qu'est-ce qu'on fait? On reprend l'ancien miroir. Cette parole, elle a l'air mais littérale, voyez. La parole de Dieu. Vous trompez vous-même par de faux raisonnements, là, vous allez reprendre l'ancien miroir. Miroir que l'autre vous a dit, oui, mais l'autre, il m'avait dit que, je pense qu'il avait insinué que, parce qu'on a un problème d'orgueil, tout ça. Non. Vous trompez vous-même par de faux raisonnements, gardez vos mains là, recevez cette nouvelle image. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Vous rendez compte? C'est marqué là, dans la Bible. C'est littéral, il nous dit, hein. Si vous faites ça, vous oubliez, vous avez main plongée là, mais vous réécoutez le mensonge de l'ennemi, de ce que vous vous dites, de ce que les autres vous disent, eh bien, vous êtes comme quelqu'un qui écoute la parole de Dieu, qui dit « T'es mon enfant bien-aimé ». Mais non, on détourne, on ferme les yeux, eh bien, on oublie. Mais celui, qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, dans la cuve des reins, la loi de la liberté, qui aura persévéré, il faut tenir, il faut revenir, persévérer. N'étant pas un auditeur oublieux qui revient à son ancien miroir, mais se mettant à l'œuvre, il va sortir du tabernacle, il va aller faire son service, celui-là sera heureux dans son activité. Vous voyez ce texte-là, on dirait qu'il a été écrit à la lettre pour la cuve des reins, pour nous aujourd'hui. Allez à la cuve des reins. Soyez pas un auditeur oublieux de votre vieux miroir. Non, il y a une parole qui est là, qui a été plantée dans vos vies, qui peut sauver vos âmes. Vous avez vos mains là, toujours encore, les mains, les pieds, avant, après. Jésus, je retourne à la croix, je vais à la présence du Père, je présente. Soyez pas un auteur oublieux, c'est ça, c'est la vérité. Il y a une parole de douceur, une parole d'amour. Celui qui aura plongé son regard dans cette loi parfaite, cette loi de la liberté, il sera heureux dans son activité et il se met à l'œuvre, se met à l'œuvre. Parce que si on reste dans les faux raisonnements, si on reste à regarder son miroir, si on, vous savez ce que c'est de l'égocentrisme, c'est du nombrilisme, et on peut faire des années de relations d'aide là autour, même de la relation d'aide évangélique. Et on repasse qu'on nous a blessés, que c'est difficile, que si, que ça, que si, que ça, etc. Et ce n'est pas ça qu'il nous est dit. Il nous a dit, oui, tu as besoin de ça, mais tu viens à ma relation d'aide du Saint-Esprit, tu sais que tu es pardonné, tu n'écoutes plus ces mauvaises voix et ces mauvaises choses, tu n'écoutes plus ton propre miroir, tu as une loi de la liberté qui est là, qui est plantée dans ta vie, tu peux l'écouter ou pas, c'est ton choix, ta responsabilité, mais elle est plantée là, elle peut sauver ton âme. Et ensuite, tu te mets à l'activité et tu es heureux. Extraordinaire. En marche. Heureux. Toute allusion à quelque partie que ce soit est tout à fait fortuite. Voilà, je crois qu'on arrive gentiment à la conclusion. Revenons toujours à cette loi de la liberté. Pour conclure, j'aimerais qu'on puisse faire un petit instant de silence. Et puis, je vais lire un texte, je vous invite à écouter celui-là dans Hébreux. Hébreux 10, versets 19 à 23. Je vous invite simplement à écouter ce texte. Puis on s'ouvrira au ministère, la cuve des reins, au ministère du Saint-Esprit, on plongera nos mains, nos pieds, on sera d'accord de donner un miroir là pour qu'il fonde, et puis verrez, ça nous fera du bien, on pourra être heureux dans notre activité. Donc écoutons ce texte d'Hébreux 10, verset 19. « Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. » Oui, ça c'est une description du tableau. Nous entrons dans notre vie chrétienne par le moyen de l'autel des reins, l'autel des sacrifices, c'est fait. Nous avons une libre entrée au moyen du sang de Jésus. C'est une route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, donc quand il est mort sur la croix. Nous avons un souverain sacrificateur établi dans la maison de Dieu. Donc, nous sommes dans ce nouveau temple spirituel aujourd'hui. C'est Jésus qui officie. Il nous ouvre une libre entrée. Approchons-nous donc avec un cœur sincère. Soyons vrais. Dans la plénitude de la foi. Soyons vrais. Soyons dans la foi. C'est des indications qui nous sont données pour des attitudes qu'on choisit maintenant dans la prière, pour s'approcher du Saint-Esprit, pour recevoir ce ministère. Un cœur vrai. Un cœur décidé. Un cœur sincère. Les cœurs purifiés de toute mauvaise conscience et le corps, les mains, les pieds, lavés d'une eau pure. Vous voyez comment la Bible se tient. Quand vous prenez ces images que Dieu a voulu, qu'on lit ces textes du Nouveau Testament, vous voyez très bien que c'est des gens qui connaissaient tout ça. Et vous voyez les étapes du tabernacle dans ce texte de Jacques, des Hébreux. Donc on s'approche, si vous voulez bien maintenant, en vérité. On ne fait pas des... mais pas en position de transe, hein. Mais là, en vérité, si on le donner notre miroir, donner notre image, donner tout ce qui a peut-être des choses qui viennent depuis des années, des décennies qui sont là, on dit, ok, c'est fondu, ça va former la cuve des reins. Je vais recevoir une nouvelle image. Le corps, les mains, les pieds, lavés d'une eau pure. Ça, c'est le Nouveau Testament, on n'est plus ancien, mais il nous dit, dans le Nouveau Testament, là, il faut que vous ayez votre corps, aussi le corps, lavé d'une eau pure, si le Saint-Esprit veut le faire, dans notre prière, dans notre approche de lui aussi ce matin. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'il y a des choses à croire, qu'on a à retenir, pas toujours se reposer les mêmes questions. Dieu est fidèle, voilà, on sait, on en sait bien assez. Après, on peut continuer la théologie, les réflexions, tout ça, c'est très, très, très bien. Mais là, pour les choses fondamentales de la vie, pour être heureux de son activité, pour être débarrassé du passé, Dieu nous propose que notre corps soit lavé, qu'on soit déterminé, qu'on lui apporte ce miroir et qu'il nous donne son image, sa parole plantée en nous qui peut sauver nos âmes. Et on se retourne vers cette nouvelle image quand on plonge nos mains, quand on plonge nos pieds et non plus sur ces anciens miroirs. Amen. C'est magnifique ce projet de Dieu, non? Alors levons-nous et puis on va prier. Je propose de prendre un premier temps de silence où simplement chacun d'entre nous peut visualiser ces miroirs qu'on tient, ces miroirs qui montrent bien les péchés, les poils, les petits grains noirs, hein, tout ça là, c'est vraiment peut-être nos travers, notre colère, nos défauts, notre égoïsme, les choses, on ne sait pas. Voilà, c'est vrai tout ça. On est paresseux, on est tordu, on est méchant, on est violent selon nos caractères, on a ça. Eh bien, ce miroir, et tout ce que les autres nous ont peut-être blessés, ou les images fausses qu'on nous a données, etc., là, eh bien, ce premier pas, vraiment, c'est de dire, Seigneur, ce miroir-là, moi, j'en veux plus. Ce n'est pas un bon miroir. Je suis d'accord, je suis sollicité par toi pour te le donner, et il sera fondu, disparaîtra. Qu'on puisse donner ce miroir maintenant, prenant un temps de silence, et on fait ce choix avec sincérité, pleinement, comme nous sommes, avec foi, nous donnons ce miroir au Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci de nous accueillir pour recevoir dans tes mains ce miroir qui nous fait du mal, qui renvoie une image réelle, mais souvent dure parce que c'est notre nature charnelle, c'est notre histoire, c'est nos manquements. Seigneur, merci parce que tu, non seulement tu l'accueilles si on te le donne, mais tu nous sollicites, tu nous appelles dans ta grâce à ce qu'on te le donne. Parce que tu ne veux pas qu'il continue à nous faire du mal, ce miroir. Tu as autre chose pour nous. Alors Seigneur, nous te le donnons avec joie, avec empressement, Seigneur. Ce qui nous fait mal, notre propre image, que les autres nous ont plaqué dessus, Seigneur, nous sommes heureux, nous courons pour te donner. Merci parce que tu nous sollicites dans ton amour à nous débarrasser de ces choses qui nous blessent et qui nous font du mal. Seigneur, maintenant que tu as fait cette cuve avec nos miroirs, maintenant qu'elle est là, qu'elle est construite, que c'est ton projet, nous voulons nous approcher. Dire oui, Seigneur, nous voulons plonger nos mains, nous voulons plonger nos pieds pour que nos corps et nos cœurs et nos êtres entiers soient lavés d'une eau pure. Viens, Saint-Esprit, toi, par l'eau de ta parole. Jésus est la parole, ta parole écrite, tout cela vient nous laver, vient nous nettoyer pour qu'on soit heureux dans notre activité. Seigneur, viens redire à chacun d'entre nous ton amour, ta vérité sur nous. Recevons la vérité, la parole de Dieu. Et tu es mon enfant, ma fille bien-aimée, et tu es précieux à mes yeux, mais aussi j'ai une tâche pour toi, j'ai un service pour toi. Je t'envoie dans la moisson. J'ai besoin de toi, je veux travailler avec toi pour que tu sois heureux dans ton activité. Seigneur, donne-nous ton activité. Donne-nous l'activité, le ministère, le service que tu nous as confié, que tu nous appelles à vivre. Pas ceux que le monde nous donne ou que les autres nous donnent ou que nous donnons nous-mêmes. Seigneur, viens nous qualifier pour que nous puissions être heureux dans ton activité. Merci pour cette cuve qui nous renvoie une image nouvelle.